Quelques grands classiques, comme les dialogues de César et Rosalie et d'un éléphant, ça trompe énormément. Voilà pour l'actualité, très belle matinée.
Coucou, c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Eh bien, vous êtes là et cela me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans l'air du temps. Alors bien évidemment, je vous souhaite une excellente matinée et une très très bonne journée d'ailleurs. Alors j'espère que vous avez la forme et aussi le moral. On aurait souhaité un peu de pluie, mais bon, on va faire avec le soleil puisqu'il s'impose encore aujourd'hui. Alors dès que le soleil pointe le bout de son nez, vous êtes immédiatement de bonne humeur. Donc en positive. Eh oui, ce sera toujours ça de prix puisque les bienfaits du soleil sur votre morale sont multiples. Alors on dit toujours que le soleil c'est la vie. L'eau aussi, remarquez bien. Mais dans l'air du temps, on prend ce qui vient et ce qui est justement dans l'air du temps.
On s'était pourtant promis de ne pas finir, devenir comme eux. On avait dit que la routine, c'était quelque chose pour les vieux. Mais le temps a fait son effet, l'important c'est d'être heureux. Alors t'es parti de ton côté, ouais, chacun a fait son mieux. Les promesses de gosses sont belles, comment les tenir dans un monde de grands? Tout ne s'est pas passé comme prévu, la faute à un manque de cran. Aujourd'hui on a fait du chemin, t'as fait de la route, t'as pris des coups. Les regrets c'est un par un qu'on va leur tordre le cou. On va refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain. Profiter de chaque seconde, n'hésite pas un instant et viens. On peut choisir de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. L'essentiel c'est d'être ensemble en pensant à rien. On est bien. On va refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain. Profiter de chaque seconde, n'hésite pas un instant et viens. On peut choisir de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. L'essentiel c'est d'être ensemble en pensant à rien, on est bien.
Il n'est jamais trop tard pour viser la lune, rêver d'aller autre part. On a toute la nuit, toute la vie pour se réveiller. Tant qu'on est ensemble, non, rien ne pourra nous effrayer. Les mauvaises pensées on élimine, on va rester positif. On va repousser les limites, les autres on s'en fiche tant que l'on kiffe. Ce qui est sûr c'est que sans chemin, on va se prendre des coups, mais les obstacles c'est un par un qu'on va leur tordre le cou.
On va refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain. Profiter de chaque seconde, n'hésite pas un instant et viens. On peut choisir de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. L'essentiel c'est d'être ensemble en pensant à rien. On est bien. On va refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain. Profiter de chaque seconde, n'hésite pas un instant et viens. On peut choisir de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. L'essentiel c'est d'être ensemble en pensant à rien, on est bien.
Comprends bien qu'il ne faut pas grand chose pour être bien. si j'y mets du mien, alors si du tien, tu verras qu'à la fin, tout ira bien. Oh, oh, oh.
On va refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain. Profiter de chaque seconde, n'hésite pas un instant et bien. Faut choisir de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. L'essentiel c'est d'être ensemble en pensant à rien, on est bien. On va refaire le monde toute la nuit jusqu'à demain. Profiter de chaque seconde, n'hésite pas un instant et bien. Faut choisir de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. L'essentiel c'est d'être ensemble en pensant à rien, on est bien.
Sylvain Arègue sur Radio Plus. Alors on n'a pas la prétention de refaire le monde hein, dans l'air du temps, mais on essaie de faire prendre conscience de certaines choses qui pourraient améliorer notre monde. Et par exemple aujourd'hui dans Saltant sur la planète avec Jean-Louis Ouatté, président de l'Étrenne Nature, eh bien nous évoquerons à nouveau le problème des pesticides. Eh bien oui, les années précédentes avec le printemps commence la semaine pour les alternatives aux pesticides. Alors cette année, nous avons commencé cette saison que l'on dit belle et euphorique avec le confinement. Belle, elle l'a été, et peut-être encore plus que les autres années, mais euphorique, beaucoup moins, puisque la joie, l'optimisme et le bien-être ont laissé la place à la peur et à la psychose. Alors toujours est-il que cette semaine, pour les alternatives aux pesticides, qui pourtant est importante pour notre santé, a été reléguée à l'arrière-plan. Alors y a-t-il néanmoins des avancées? La réponse avec Jean-Louis. Et nous continuerons d'en parler un petit peu avec Bertrand Trinel, qui a de très beaux légumes, sans aucun produit et de façon tout à fait naturelle. Bertrand qui nous dira aussi comment se préserver lorsqu'on habite tout près d'un champ dans lequel il y a épandage. Et puis nous terminerons l'heure avec le docteur Guy de Regnaucourt qui nous fera découvrir, si le besoin en est, ce chef d'orchestre, véritable régulateur central de notre organisme, qu'est la thyroïde. Et oui, on ne connaît pas forcément la thyroïde, et pourtant elle est essentielle pour notre corps. Et le docteur Guy de Regnaucourt nous dira pourquoi, à savoir que c'en est aujourd'hui la journée mondiale. Et nous serons en droit de lui poser la question de savoir si les pesticides et autres perturbateurs endocriniens n'auraient pas quelque incidence sur les maladies, sur les maladies de la thyroïde qui sont de plus en plus nombreuses. Alors on ne refera pas le monde, comme je vous le disais, mais on peut peut-être contribuer à le rendre meilleur. On écoute, tenez, 3 cafés gourmands, c'est le nom de ce groupe.
Évidemment.
C'est un manège,
c'est évident.
Étourdissant, c'est bouleversant, évidemment. Incandescent, embarrassant pour les amants. Fluorescent, luminescent pour les enfants.
Évidemment.
C'est évident,
tu as le temps.
Évidemment que tu veux devenir un grand. T'es fatigant, t'es rintant et très usant. L'adolescent avec la palme du plus chiant.
Évidemment.
C'est évident.
Et captivant.
C'est très touchant, un contre-champ évidemment. Un contre-temps, c'est déroutant même en dansant. Pour une valse qui ne compte pas de temps.
Évidemment.
C'est évident.
Sauf en plein vent.
De faire planer un cerf-volant évidemment. Rajeunissant, divertissant et très grisant. Ça fait souvent se souvenir nos grands-parents.
Évidemment.
Les linceuls, les phrases répétées au micro et les gimmicks dans le studio.
Tous les soutiens sur la tournée, vous êtes parrain de notre CD. Les fatigues d'après-concert et vos débriefs à bras ouverts.
Tous vos messages d'avenir et vos visages pleins de sourires. On garde tout, on n'oublie rien, on pense à vous sur nos chemins.
On vous amène partout en France et on raconte les grosses ambiances aux gens qui courent, les guitares, tous les gourmands, tous les fêtards.
Les friandises et les bêtises, les moments de crise et puis les pleurs, les larmes qui roulent sur nos joues blêmes, tous les remèdes face aux dilemmes.
Les désimpoles, les exaltations, les petits lieux de confession, tous les problèmes aux solutions et les terribles désillusions.
À l'aube d'un monde qu'on a bâti, à l'ombre d'une plume qu'on a suivi, au long discours qu'on a écrit au gouffre amer qu'on a enfoui.
S'il est un rêve, évidemment, il faut le vivre sans perdre de temps. Jour après jour, on le construit. Vous êtes le vide qu'on a rempli.
Na, 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 na.
comme ça que l'on avance. Viens vos soupirs, puis vos silences. Ne lâchez rien, on compte sur vous. Vivez vos rêves, même les plus fous.
Soyez tous fous, soyez tous fous, soyez tous fous.
Café gourmand sur Radio Plus. Alors notre enquête dans l'air du temps, elle émane de Thomas Menzel de l'université de Mayence en Allemagne, qui avec un co-auteur a émis un rapport selon lequel la pollution de l'air pourrait causer 800 000 morts par an en Europe et 8,8 millions dans le monde, soit deux fois plus que l'on pensait. Ce qui veut dire que la pollution de l'air fait plus de victimes chaque année dans le monde que le tabac, et c'est presque le double de la mortalité mondiale due au coronavirus. Ce qui voudrait presque dire que ce n'est pas un simple masque que nous devrions porter dans les lieux confinés pour ne pas contaminer les autres, mais c'est carrément le masque de protection respiratoire anti-gaz complet qu'il faudrait toujours porter à l'extérieur. Et oui, c'est vrai qu'on a quelquefois besoin d'air pur. Chloé Claire.
Souvent, juste pour me protéger, j'ai cru le monde si blanc, je peux pas vous le pardonner. Encore un coup du sort, un sujet qu'on évite. Personne n'a vraiment tort, mais vaut mieux prendre la fuite. Pas de l'amour, de la pitié, des regards transparents. Accroché tout là-haut, un petit carré d'air pur, un peu comme un radeau. Il y a pourtant, je suis sûr, un truc qui flotte sans eau. Un bateau où les fous pourront mourir idiots. Nous, on fait tous des manières. Garde les yeux baissés, deux pas en avant, trois en arrière. Je recule pour mieux fauter. C'est l'histoire du sauvetage, d'une illusion qui se noie. Jette une bouée dans le potage et regarde si tu me vois. Il y a pourtant, je suis sûr, accroché tout là-haut. Un peu comme un radeau. Il y a pourtant, je suis sûr, un truc qui flotte sans eau. Un bateau où les fous ont droit de mourir idiots. Tous les jeunes Don Quichotte ont rangé leurs armures, leurs épées puis leurs bottes. Ils sont devenus plus durs. Avant de se jeter à l'eau, on devrait la goûter, pouvoir tomber de vélo avant qu'il soit rouillé. Il y a pourtant, je suis sûr, accroché tout là-haut. Un peu comme un radeau. Il y a pourtant, je suis sûr, un truc qui flotte. boîte sans eau. Un bateau où les fous pourront mourir idiots.
Chloé Claire sur Radio Plus, un petit carré d'air pur, existe-t-il? Alors quelquefois, on se dit qu'habiter la campagne nous apporte ce petit carré d'air pur. Ce n'est qu'illusion et je ne sais pas si vous avez senti, mais ces derniers temps, il y avait comme une drôle d'odeur.
Ça danse sur la planète. Oh, le drôle, drôle de temps.
Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Et oui, avait eu lieu cette année pour la 15e fois la semaine pour les alternatives aux pesticides qui en principe commençait le premier jour du printemps. Alors cette semaine ayant pour but de mettre à l'honneur de nombreuses alternatives qui existent pour se passer des pesticides chimiques de synthèse. Jean-Louis Ouatté, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors les pesticides, un sujet récurrent dans cette rubrique, non seulement pour dénoncer l'impact des pollutions chimiques sur notre santé, mais aussi sur notre environnement, sur notre faune, sur notre flore. Tous les rapports sont accablants, qu'ils soient médicaux, scientifiques, toutes les conclusions sont accusatrices, Jean-Louis. Et pourtant, la crise sanitaire en cours, qui rend la concertation publique difficile, selon le gouvernement, va permettre aux agriculteurs utilisant des pesticides de se passer de cette formalité démocratique. Alors, ils peuvent donc, jusqu'au 30 juin prochain, se contenter d'avoir déposé un projet de charte en préfecture pour avoir le droit de répandre leurs produits toxiques au-delà des zones de non-traitement minimal prévues par la loi. Alors c'est quoi cette mascarade, Jean-Louis ?
Bon, il faut revenir un peu en arrière. Il faut savoir que l'arrêté qui a été pris en date du 27 décembre donc 2019 portait les distances de sécurité minimales pour la pulvérisation des pesticides à proximité des lieux habités à 5 mètres pour les cultures basses, bon, type par exemple maraîchage, et à 10 mètres pour les cultures hautes. Or, bah, depuis le mois d'avril, 25 départements, dont tous les départements bretons, il faut quand même le noter, ont permis de revoir ces distances à 3 mètres pour les cultures basses et à 5 mètres pour les cultures hautes. Alors, c'est pas surprenant, hein, fallait s'y attendre. Le lobby de l'agrochimie et de l'agriculture industrielle, ces deux lobbies sont montés au créneau, hein. Mais bon, restons optimistes, ces sujets qui étaient marginaux il y a quelque temps encore sont aujourd'hui au cœur des débats et cela fait partie d'une lente évolution, alors lente bien sûr, qui est en route. Hein. On ne va pas changer les pratiques agricoles du jour au lendemain, hein. C'est un long processus qui est en marche. On l'a vu pour les pesticides dans les espaces verts dans nos communes. Donc, et là, ce sera encore plus long. Hein, de plus en plus, faut savoir que de plus en plus de députés se mobilisent sur la question. Et puis, bon, chose quand même intéressante, c'est qu'il y a 24 organismes européens de recherche qui ont lancé une initiative qui vise à façonner, à donner naissance au futur de l'agroécologie, à un avenir qui se veut donc sans pesticides. Donc, ces organismes sont originaires de 16 pays européens. Et ils s'engagent dans une vision commune qui prenne un engagement qui est déterminant. Donc l'objectif de ces chercheurs, c'est de trouver des solutions qui permettent partout en Europe de faire la transition vers une agriculture sans pesticides chimiques. Alors cela passe, bien entendu, explique la déclaration d'intention des signataires, par le développement d'une agriculture durable, la production d'aliments sains, la conception de systèmes de production qui sont efficaces et puis aussi économiquement viables.
Alors justement, Jean-Louis, bon, quand je disais mascarade, c'est parce que des mesures drastiques sont prises pour lutter contre le coronavirus, et Dieu sait si quelquefois on marche là sur la tête. Et dans ce cas précis, d'après un collectif de médecins, la pollution atmosphérique provoquée, entre autres, par les pesticides est un vecteur du Covid-19. Et l'interdiction des épandages aurait dû faire partie, normalement, de ces, si on est logique, hein, de ces mesures gouvernementales quand même.
Bon, je reviens un petit peu sur le coronavirus. Hein. Quand on voit les dégâts causés par ce virus chez certaines personnes, hein, tout le monde ne l'a pas de la même façon. Toutes les questions sans réponse pour le moment. Bon, moi, je regrette, mais le drastique a quand même un peu sa place. Hein. On peut rêver de vivre au Brésil ou aux États-Unis. Moi, c'est pas mon cas. Hein. Alors, sur l'interdiction des épandages, bah, et puis sur la pollution atmosphérique et puis le Covid... Alors, il y a effectivement des études en cours sur le lien entre la pollution atmosphérique et le Covid. Il y a notamment en Italie, hein, dans une note d'analyse, la Société italienne de médecine environnementale a observé une corrélation frappante entre la pollution atmosphérique par les particules fines et la sévérité de l'épidémie de Covid-19. Donc le lien entre la pollution de l'air et les infections respiratoires avait déjà été observé sur d'autres maladies. En 2010, hein, une étude chinoise qui révélait une plus grande concentration de particules virales de la grippe aviaire, hein, lorsque soufflaient les tempêtes du désert. Donc c'était déjà un peu, il y avait déjà une alerte à ce niveau-là. Et puis d'autres études qui ont été publiées par la suite ont établi une relation entre la teneur atmosphérique en particules fines. Hein, faut savoir que ça se dit PM2,5 ou PM10. Alors PM, bah, c'est les particules, et 10, c'est le chiffre qui suit, c'est le diamètre des particules. Donc ça établissait le lien entre justement cette teneur en particules et puis le nombre de cas de rougeole et d'infection par d'autres virus, notamment responsables de pneumonie infantile. Donc ici, les chercheurs italiens montraient une corrélation entre le nombre de cas dans la péninsule italienne et la pollution par les PM10. Donc les particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres. C'est des poussières, mais c'est des poussières qui sont inhalables. Donc ils ont analysé la teneur en atmosphérique en PM10 dans 5 provinces italiennes. Ils n'ont pas dit lesquelles, sur la période du 10 au 19 au 29 février. Et les résultats montrent que la pollution y était étroitement corrélée au nombre de cas de Covid-19 recensés au 3 mars, en tenant compte bien entendu du délai de 14 jours. Donc c'est quand même quelque chose d'assez frappant. Hein, un exemple, par exemple, dans le sud de l'Italie, la courbe épidémique semble uniquement refléter des transmissions interhumaines, à l'inverse des provinces qui sont situées dans la vallée du Pô, qui est très polluée par les particules fines. La courbe épidémique, ça présente des accélérations qui sont corrélées, selon les auteurs, avec des pics atmosphériques. Donc il y a un lien quand même entre la pollution atmosphérique et puis la diffusion du virus.
Alors justement, deux collectifs du sud-ouest ont demandé à leur préfecture de suspendre les pulvérisations de pesticides de synthèse. Le refus de la préfecture leur a inspiré cette réponse. La population girondine devra jongler entre les passages des pulvérisateurs pour s'aventurer les 60 minutes autorisées hors de son domicile, renoncer à ouvrir ses fenêtres, s'armer de patience, s'accoutumer à l'angoisse et s'en remettre à sa bonne étoile pour que son organisme ne soit pas rendu trop vulnérable au virus ou à ses complications. Alors dans notre région des Hauts-de-France, il y a un collectif des victimes des pesticides qui est en train de se mettre en place, je crois.
Là, je sais pas trop, mais je sais que bon, c'est quand même l'occasion de rappeler qu'il y a quand même des associations qui sont reconnues au niveau national, comme par exemple Génération Future, hein, qui est une association de défense de l'environnement reconnue d'intérêt général, qui a été créée en 96, qui est agréée par le ministère et qui mène des actions, hein, des enquêtes, des colloques, des actions en justice. Quand même, c'est des associations qui sont souvent consultées pour informer sur les risques et lutter contre les pollutions chimiques en général, et les pesticides en particulier. Donc ça œuvre aussi, Génération Future, ça œuvre pour la promotion des alternatives aux pesticides, hein, notamment par le biais dont vous avez parlé de la semaine pour les alternatives aux pesticides. Donc je pense que bon, la multiplication de collectifs, c'est peut-être bien, mais je pense qu'il faut se grouper, notamment avec des associations qui ont les moyens justement de défendre ces collectifs.
Et justement, dommage que cette semaine pour les alternatives aux pesticides n'ait pu se dérouler comme prévu, car c'est un temps fort pour la mobilisation citoyenne, avec des objectifs comme informer sur les risques réels, promouvoir les alternatives et mobiliser un public de plus en plus large. Alors surtout qu'un épandage à 3 mètres, bon, pour ma part, je trouve ça inadmissible. On sait que celui-ci a un impact jusqu'à 1 km à la ronde, une chose qui a été d'ailleurs démontré en 2011. Et en plus, comme nous avons de plus en plus de vent dans notre région, bon.
Oui, c'est clair, hein, même si ces distances à respecter protègent peu, c'est quand même le signe que le sujet avance dans le débat public. Bon, pas assez vite, certes, hein, mais l'écologie passe seulement maintenant, hein, de la marginalité à la réalité. Hein. On est face à des choix politiques, qu'on le veuille ou non, et la méfiance qui est entretenue du politique sur ces sujets est un frein important.
Tout à fait. En tout cas, certains d'entre nous ont pu voir ce film sur France 3 et l'histoire de cet agriculteur Paul-François en lutte contre Monsanto. Dans ce film, il y a notamment ce passage sur l'irresponsabilité des politiques qui n'épargne ni Agnès Buzyn, ancien ministre de la Santé, ni le président Emmanuel Macron. Honte à eux, lance Paul-François. Alors finalement, je trouve que ça résume un peu tout quand même, Jean-Louis, non ?
J'ai beaucoup de respect pour Paul-François, qui mène un combat courageux depuis déjà un moment contre Monsanto. D'ailleurs, Marie-Monique Robin, lors de sa venue à l'Étrême, il y a de ça quelques années, avait parlé longuement de son combat. Mais sur l'irresponsabilité ciblée, je dis que c'est un discours un peu facile, partisan et puis volontairement superficiel. Faut quand même être cohérent et aller jusqu'au bout. Si on veut dénoncer toutes les irresponsabilités, de citer la récente ministre de la Santé et le président de la République, que dire alors de nos maires et de conseillers départementaux qui ont laissé pendant des dizaines d'années utiliser des tonnes de pesticides dans nos espaces verts? Que dire aussi de nos médecins généralistes et spécialistes, dont la majorité, alors je ne vais pas généraliser, mais sont malheureusement aux abonnés absents quand on mène, on le sait, puisqu'on l'a fait sur les perturbateurs endocriniens, ils sont aux abonnés absents quand on mène des actions de sensibilisation, de prévention, seraient pourtant des relais essentiels dans nos actions.
Tout à
fait. Et puis que dire aussi, malheureusement, du public, quand on voit la difficulté des communes à ne pas traiter dans les cimetières, par exemple, le public est aussi largement responsable de tout ça. Donc je pense que sur les responsabilités, c'est un peu facile de cibler quelques personnes.
Eh bien, merci à vous Jean-Louis et très très bonne semaine. Alors dans quelques instants, Bertrand Trinel nous dira sans doute comment nous préserver et préserver notre jardin lorsque celui-ci côtoie un champ dans lequel ont été déversés des produits phytosanitaires. Et puis enfin, le docteur Guy de Rognaucourt nous établira sans doute un rapport entre les pesticides et les maladies de la thyroïde. Jean-Louis, merci. Alors, première chose à faire, je crois, justement, mangeons bio pour leur montrer que leurs pesticides, eh bien, on n'en veut pas.
Tout à fait.
Bonne semaine, Jean-Louis.
Bonne semaine.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fut du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. J'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine, chargée en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fut du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur.
Rida Ridan. Ridan qui n'a jamais eu de langue de bois dans ses chansons. Ridan qui a arrêté la chanson dénonçant les labels de la musique business. Ridan sur Radio Plus. Agriculteur certes, mais sans produits phytosanitaires. Et on en parle encore avec Bertrand Trinel, le président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Alors, bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors, évidemment, lorsqu'on vous parle à vous de produits phytosanitaires et d'épandage, cela bien sûr vous fait frémir. Vous, le président de l'Association des paysages et jardins des hommes qui travaillait à faire connaître, à préserver et à développer la biodiversité sous toutes ses formes et qui avait créé avec elle le jardin de l'ermite à Averskerk, jardin naturel dans lequel n'est jamais entré aucun produit phytosanitaire. Et j'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller sur votre blog pour constater que les légumes produits sont tout simplement magnifiques. Alors, on va supposer qu'entretenir un jardin et y faire pousser des légumes est sans doute plus facile que de le faire dans un champ. Mais pensez-vous, Bertrand, qu'il faudrait changer notre modèle agricole? Et surtout, croyez-vous que cela est possible?
Oui, c'est, pour moi, c'est tout à fait une évidence. Hein. Si on veut préserver la biodiversité et puis la vie sur notre planète, il faudra bien un jour arrêter l'épandage de pesticides et puis la production intensive en monoculture. Donc moi, je veux bien croire qu'après la guerre, il a fallu produire en abondance pour nourrir la population. Hein. Mais on se rend compte maintenant qu'on a pris le mauvais chemin, donc il est temps d'en changer. Bon, mais quand même, le changement n'arrivera que si les consommateurs prennent conscience que s'ils veulent sauvegarder la nature, ils doivent avoir des préférences alimentaires et consommer de plus en plus bio.
Tout à fait.
Ça passe par le consommateur. Faut vraiment qu'on prenne conscience de ça. Bon. Mais seulement, ça peut pas se faire du jour au lendemain non plus, parce que les agriculteurs, ils ont déjà le couteau sous la gorge, ils ont investi dans des tonnes de matériel importants pour leur culture. Donc, pour changer de mode de culture, ils vont devoir changer de matériel, c'est un coût, donc il va falloir des aides de l'État pour la reconversion, quoi.
Oui, bien donc, sûr. C'était prévu normalement pour ceux qui se convertissent.
Oui, c'était prévu, mais ça tarde. Hein. Après, il faut également que le consommateur, que nous sommes tous, hein, et ben, que nous soyons prêts à payer un peu plus cher, à payer le juste prix pour manger des aliments de qualité. Mais pour l'instant, on n'est pas encore là.
Non. Alors, on revient, Bertrand, dans notre jardin. En France, avec l'étalement urbain et le grignotage des terres agricoles et naturelles, de plus en plus de personnes habitent dans des lotissements qui jouxtent des champs, la plupart du temps donc traités avec des pesticides. Or, les pesticides ne sont pas anodins pour la santé. Alors, que pensez-vous, vous, de la distance de 3 mètres séparant la surface d'épandage de l'habitation, quand on pense que certains maires voulaient quand même 100 à 150 mètres?
C'est un problème assez compliqué quand même, parce que comme je le disais, les agriculteurs conventionnels doivent produire en quantité s'ils veulent continuer à rembourser leurs prêts. Hein. Leur production est vendue tellement à des prix tellement bas que, ben voilà. Et donc et là, je reviens encore sur la responsabilité du consommateur que nous sommes, hein, et qui veut toujours acheter le moins cher possible. Hein. Donc on est vraiment responsable de tout ça, quoi. Le moins cher pour la nourriture, c'est la production intensive à coup de pesticides, faut le savoir. Et la première contamination aux pesticides reste l'alimentation. Mais les pesticides sont les principaux responsables de la perte de la biodiversité, de l'hécatombe des oiseaux en milieu agricole. Hein. Un tiers des oiseaux ont disparu, 80% des insectes également, environ 40% des chauves-souris, puis je parle pas des abeilles, hein, qui c'est l'hécatombe. Donc si tous ces pesticides sont dangereux pour tous ces animaux, bah, on est en droit de penser que c'est la même chose pour nous, nous qui habitons à côté des champs. Donc alors 3 mètres de distance pour qui sépare l'épandage d'une maison, c'est vraiment dérisoire. Ça ne sert strictement à rien. Alors oui, à 100, 150 mètres, ce serait la meilleure solution, hein, ce serait une meilleure solution. Mais je pense qu'il faudra complètement repenser le modèle agricole. Et je répète que seuls les consommateurs peuvent influencer ce changement par leurs achats. Hein. Donc on ne peut pas toujours se plaindre de la pollution, de la perte de la biodiversité, sans arrêt entretenir les causes par nos mauvais achats. Hein.
Tout à fait.
Changer le modèle agricole, c'est interdire les pesticides les plus dangereux pour commencer. Hein, à la place d'un modèle agricole qui est quand même industriel, hein, qui devient de plus en plus industriel, il faudrait peut-être revenir vers l'agroécologie, un modèle qui restaure un peu l'équilibre des écosystèmes, où les auxiliaires et les prédateurs vont s'autoréguler. Hein, c'est comme je dis dans nos jardins de jardiniers, si le jardin est en équilibre, on n'a plus à intervenir du tout. Nous, c'est ce qui se passe au jardin de l'ermite, on n'a aucune intervention de produits phyto. Bon, il y a plein d'autres modèles possibles, hein. pour produire une nourriture saine pour l'humain, hein, et tout en préservant la biodiversité. Hein. Et j'ai cité l'agroécologie, l'agroforesterie, il y a plein de choses possibles actuellement qu'on pourra mettre en place tout doucement. Quoi.
Alors Bertrand, admettons que j'habite une maison avec un jardin potager et fruitier qui se trouve très à proximité d'un champ traité aux pesticides. Alors comment puis-je tenter de me protéger contre les épandages et comment surtout protéger mes légumes que je veux faire pousser de façon naturelle?
Je change de maison. Non, je plaisante. En premier lieu, on peut déjà installer un grillage comme clôture sur lequel on va agrafer un brise-vent. Un brise-vent qui est alors 1m50 de haut, 2m de haut. Hein, les brise-vents, ça coupe quand même pas mal de choses. Hein. Ensuite, il est très important de planter une nouvelle champêtre. Donc, si possible, tout autour du terrain. Et si possible, une nouvelle champêtre sur deux rangées, méthode Sautner. Hein, c'est deux rangées d'arbustes qui vont vous protéger encore plus. Et puis, pour faire pousser les légumes de façon tout à fait naturelle, la plus naturelle possible, bah, il faut éloigner le potager le plus possible des épandages. Donc, il faut le mettre dans un coin du jardin qui sera le plus éloigné des champs. Après, si vous voyez l'agriculteur qui s'apprête à épandre des pesticides, bah, restez pas dans votre pelouse. C'est malheureux, mais fermez vos portes et fenêtres et arrêtez la VNC. Donc ce serait quand même bien aussi que s'il pouvait y avoir une concertation entre les agriculteurs et les riverains, quoi. Dès que les agriculteurs doivent épandre des pesticides, il faudrait prévenir les riverains pour que ceux-ci prennent les précautions. Quoi. Mais là non plus, on n'en est pas encore là.
Non. Alors Bertrand, on parle justement souvent légumes dans cette rubrique, fleurs aussi ou arbustes, mais rarement fruits. Alors, or, que l'on ait une terrasse, un coin de balcon ou un grand jardin, eh bien il est possible de cultiver des petits fruits, histoire d'apporter quelques touches sucrées à nos desserts. Alors j'entends par là fraises, framboises, groseilles et cassis par exemple.
Oui, bah, tout à fait. Donc sur une terrasse, on peut très bien faire des carrés de jardinage. Hein. On va les remplir avec un bon terreau mélangé avec une bonne terre de jardin et du compost. Hein. Alors là, vous pourriez planter des petites fraises. Alors bien sûr, chaque année, il faudra apporter un bon engrais organique, un bio et du compost, car le substrat de carré, bah, il s'épuise et s'appauvrit rapidement. Bon, ensuite, sur les terrasses, il y a également les pots, hein, plus ou moins grands. Vous pourriez mettre des arbres fruitiers nains, parce que maintenant, il existe des fruitiers qui poussent à 1m50 de haut. Donc ce sont des pommiers, des poiriers, des pruniers, des cerisiers, il y a des pêchers, il y a des abricotiers, il y a plein de choses qui en a. Mais bien sûr, les petits fruits également, comme le cassissier ou le groseillier. Bon, il faut savoir quand même que toutes les cultures en bac ou en pot sur une terrasse auront besoin d'un arrosage quand même régulier. Donc si vos pots ont des réserves d'eau, c'est encore mieux. Hein. Donc sinon, essayez de penser à mettre des oyas. Vous savez, les oyas, ce sont des boules en terre cuite ou différentes formes en terre cuite, mais qu'on remplit d'eau, qu'on met dans le sol, et l'eau va se diffuser tout doucement. Donc même si vous partez une semaine, 15 jours en vacances, bah, ça se diffuse doucement, les plantes ne manquent pas d'eau. Et puis sur la terrasse, il y a aussi la possibilité de pratiquer la culture sur bottes de paille. À essayer.
D'accord. Alors, vu le temps qui nous est imparti aujourd'hui, on ne parlera pas la semaine prochaine, enfin dans 15 jours, puisque la semaine prochaine c'est le lundi de Pentecôte. Ouais. Dans 15 jours, on parlera de la tomate, Bertrand.
D'accord.
Je sais que vous êtes un grand spécialiste. Bon, en ce moment, on va pas parler de la protection contre le mildiou puisqu'il fait sec, trop sec certainement. Je pense que vous, comme Jean-Louis, vous pensez qu'il fait trop sec. On a besoin d'eau là, hein, vraiment. Hein.
On a vraiment besoin d'eau. Et comme je le dis toujours, le beau temps, c'est un temps qui change. Donc du soleil, de la pluie, du soleil, un peu de chose, de la neige ou n'importe quoi l'hiver. Mais c'est un temps qui change. C'est ça le beau temps.
Tout à fait. En tout cas, je vous dis, je vous retiens dans 15 jours pour parler. Et puis, j'ai pas mal de choses à vous dire aussi sur la tomate. Alors, Bertrand, là, je vous remercie. Je vous souhaite une très, très bonne semaine. Je ne vous dis pas donc à lundi, car ce sera la Pentecôte. Bonne semaine à vous. Et puis, bien le bonjour à vos cigognes. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller sur le blog, encore une fois, je le dis, de votre association des paysages et jardins des hommes, blog sur lequel il y a de très jolies photos de ce couple de cigognes avec leurs cigogneaux. C'est assez émouvant d'ailleurs, Bertrand.
Oui, tout à fait. Il faut voir toute l'attention que les parents cigognes prennent pour leurs jeunes, pour leurs petits cigognes. C'est formidable. Mais on a le couple de cigognes, on a 3 cigognes actuellement, mais il y a quand même encore parfois 3 ou 4 couples de cigognes qui tournent autour du nid. Hein.
Tout à fait, oui.
On va mettre une deuxième plateforme.
Oui, je pense. Je vous l'avais déjà dit l'année dernière, hein, Bertrand.
Oui, tout à fait.
En tout cas, profitez bien de votre jardin. Et puis, on va faire quelques prières pour avoir un petit peu de pluie. À bientôt, Bertrand.
Merci. À bientôt, Martine.
Au revoir.
Au revoir.
dans un siècle où l'horreur battit ses records, parmi les êtres qu'on a pu rencontrer sur le seuil d'un grand rêve ou dans des corridors, au cours d'une vie de verte et de pas mûre, à se dire quelquefois que le monde est foutu, que l'homme est fou, qu'il va droit dans le mur. Il arrive que cette vie si cruelle et tordue s'ouvre sur un jardin d'odeurs, comme on avait les fleurs que l'on avait cru disparues. S'ouvre mystère et boule de gomme quand l'espérance en l'homme chantait encore dans les champs et les rues, dans les champs. Il arrive qu'un jardin, qu'un simple visage humain, une main prend un nouveau chemin.
Claude Nougaro sur Radio Plus. Alors vous pouvez vous en rendre compte, votre santé nous tient à cœur sur Radio Plus. Et dans l'air du temps, et parce que c'est aujourd'hui la journée mondiale de la thyroïde, eh bien le docteur Guy de Regnaucourt est avec nous pour nous en dire plus sur cette glande endocrine. Et oui, elle a un rôle fondamental dans l'organisme, c'est elle le gendarme de la régulation corporelle, et pourtant elle est toute petite. Alors on l'appelle la glande thyroïde. À quoi sert-elle? Où se situe-t-elle? Et quels sont les problèmes qui lui sont associés? On fait le point avec le docteur Guy de Regnaucourt. Bonjour docteur.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors elle est toute petite, hein, mais son rôle est crucial pour le corps humain. Et vous nous dites pourquoi docteur?
Oui, alors la glande thyroïde effectivement est toute petite. Elle est située à la partie antérieure et inférieure du cou. Elle a une forme de papillon avec deux ailes qu'on appelle les deux lobes. Hein, derrière elle passent les nerfs de la voix, c'est-à-dire les nerfs récurrents, hein, et elle fabrique des hormones, c'est pour ça qu'on dit endocrine, T3 et T4, qui sont les régulateurs du métabolisme, donc de l'énergie à base de l'alimentation qu'on ingère. À côté d'elle existent deux autres petites glandes, des parathyroïdes, qui régularisent le taux de calcium.
Alors justement, puisqu'elle cette glande a besoin de quoi pour bien fonctionner?
Alors, elle fonctionne par deux processus. Avant, je rappelle qu'elle régularise donc la croissance et le développement des tissus, qu'elle régularise la thermorégulation, c'est-à-dire notre température, qu'elle actionne nos systèmes moteurs des vaisseaux, des intestins, et en plus, nous n'oublions pas, mesdames et messieurs, elle agit sur la libido et sur l'humeur. Alors, elle fonctionne grâce à l'iode, hein, qui est un métal qu'on connaît partout, et elle fonctionne grâce à une deuxième régulation qui vient du cerveau, c'est la glande pituitaire, c'est-à-dire l'hypophyse, qui, elle, sécrète l'hormone TSH, thyréostimuline hormone.
Alors depuis 2007, le 25 mai est la journée mondiale de la thyroïde avec pour objectif de sensibiliser le public au dysfonctionnement de cette thyroïde. Et en effet, il est important de s'intéresser à cette petite glande qui empoisonne quand même la vie de 6 millions de Français. Alors pourquoi se dérègle-t-elle et quelles peuvent en être les causes?
Alors effectivement, vous l'avez dit, hein, c'est des millions de personnes qui sont atteintes. Ça se traduit d'abord morphologiquement, donc visuellement, par une augmentation de volume, par l'existence de goitres, augmentation de volume, par l'apparition de nodules qui sont soit bénins, soit malins, et par ce qu'on appelle un fonctionnement ou hypo ou hyperfonctionnel. Alors quelles sont les causes de l'hypothyroïdie, donc du déficit de son fonctionnement? C'est-à-dire que les hormones qu'elle sécrète normalement diminuent ou sont même nulles. Et il y a une cause à la fois glandulaire elle-même, c'est la thyroïde, ou une cause plus haute, c'est-à-dire l'hypophyse. Alors, quelles sont les causes? Ben, les causes sont d'origine immunitaire. On appelle ça une maladie auto-immune qui provoque une hypotrophie, voire une atrophie de la glande. C'est la maladie d'Hashimoto. Ça peut être provoqué aussi par le postpartum qui dérègle l'immunité chez la femme. Ça peut être d'origine, excusez le récitation des causes, mais ça peut être d'origine inflammatoire, d'origine virale. On appelle ça la thyroïde de Dequervin, hein. Ça peut être aussi toujours à cause du postpartum, mais sans raison immunitaire. Enfin et surtout, vous retenez tous et toutes les causes médicamenteuses iatrogènes dues à certains médicaments anti-infectieux, régulateurs du rythme cardiaque, les éléments pour faire des explorations radiologiques ou pour soigner, c'est-à-dire l'iode radioactif, le lithium, la radiothérapie et les produits de contraste en radiologie. Enfin, il peut y avoir une tumeur cérébrale au niveau de l'hypophyse. Et enfin, notre alimentation. Souvenez-vous du crétinisme dans certaines régions françaises, notamment loin de la mer, c'est-à-dire dans les régions montagneuses, provoqué par une carence en iode. Mmh. À l'inverse, l'hyperthyroïdie, donc l'hyperfonctionnement, va donner les effets complètement inverses. Elle a les mêmes causes que je viens de citer et elle est souvent au début d'une hypothyroïdie. Il y a d'abord un hyperfonctionnement, donc la glande elle s'emballe, elle s'épuise et on va vers l'hypothyroïdie. Il faut retenir donc les causes que j'ai citées déjà, il faut retenir la gestation, il faut retenir aussi les causes médicamenteuses, il faut retenir les goitres d'origine toxique, hein, et l'adénome hypophysaire. Voilà, j'ai essayé de résumer le plus bref possible.
Alors je crois que justement il y aurait beaucoup à dire sur les différents dysfonctionnements. Malheureusement, le temps nous oblige à rester succinct. Mais alors peut-être pouvez-vous nous dire, docteur, quels sont les problèmes rencontrés les plus courants et quels sont les symptômes qui doivent alerter justement. Bon, les problèmes, vous venez de les citer. Quels sont les symptômes qui doivent alerter et comment vous, en tant que docteur, vous pouvez dépister un dérèglement thyroïdien. Quels sont les examens à effectuer pour le diagnostic?
Alors, les symptômes sont assez connus, ben, je dirais, de toutes et de tous. C'est la fatigue, l'asthénie. Je parle de l'hypothyroïdie d'abord, toujours, en comparaison de l'hyperthyroïdie. Donc, hypofonctionnement, hyperfonctionnement. Cette asthénie entraîne des troubles de la mémoire, de la concentration intellectuelle, entraîne de la dépression, ralentit le rythme du cœur. Comme la glande thyroïde régularise la motricité digestive, on est constipé. La peau devient sèche, on prend du poids puisqu'on n'a plus de régulation avec ces hormones de la régulation métabolique. On devient, je dirais, obèse. Les femmes sont déréglées, elles ont froid, on a des crampes musculaires, on prend de l'œdème au niveau du visage, du cou et des membres inférieurs. Enfin, si je vais plus loin, excusez, je suis obligé de dire plein de choses, c'est les troubles cardiaques. C'est l'hypertension chez la femme enceinte et enfin chez le fœtus, le bébé, l'enfant, c'est l'hypotrophie. En hyperfonctionnement, ben c'est exactement l'inverse. Votre cœur va trop vite, vous êtes excité sur le plan neurologique, vous avez toujours trop chaud, vous suez, vous maigrissez, vous avez sans arrêt soif, vos muscles diminuent, vos selles vont trop vite, donc vous allez trop souvent à la selle. Il y a un signe caractéristique qu'il faut connaître, c'est la rétraction de la paupière supérieure. Enfin, chez les enfants et nouveau-nés, c'est une prise de poids rapide, une prise de croissance osseuse, et toujours chez la femme qui est enceinte, c'est les fausses couches et le bébé prématuré. Vous voyez, c'est énorme, cette glande thyroïde, c'est notre régulateur de tout. Je le dis parce qu'on dépiste ça assez facilement, en faisant des prises de sang. Si on a un hypofonctionnement, l'hormone cérébrale, la TSH, est élevée, puisque c'est elle qui régularise. À l'inverse, comme il y a un hypofonctionnement, les hormones T3, T4 sont basses. On découvre comment. On fait ce qu'on appelle une palpation, bien sûr. On est d'abord des médecins, on palpe le cou. Hein. Après, on fait une échographie. Après, on fait une scintigraphie. Et pour aller plus loin, on fait une ponction. En hyperthyroïdie, en hyperfonctionnement, c'est exactement la même chose, mais inverse. Hein, la glande pituitaire, elle donne beaucoup de stimulation par la TSH, hein, non, elle baisse, excusez-moi, hein, elle baisse sa commande parce qu'il y a trop d'hormones thyroïdiennes qui freinent justement la glande pituitaire. On fait aussi la palpation, l'échographie, la scintigraphie et la ponction.
Alors, très très vite, parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute, qu'en est-il du cancer de la thyroïde, très vite?
Alors, le cancer de la thyroïde, c'est polysymptomatique, il n'y a pas de symptômes, on le découvre en palpant le cou toujours, on le découvre s'il y a une rossité de la voix, s'il y a un goitre qui s'augmente, on fait des prises de sang standard pour la thyroïde, on dose aussi le calcium et la calcitonine, on fait les mêmes examens en échographie, en scintigraphie, au scanner, en IRM, en PET scan pour voir s'il y a des diffusions, donc des métastases. On fait une ponction pour différencier le cancer papillaire du folliculaire, mais je ne peux pas détailler. Enfin, on la soigne, on soigne ce cancer par la chirurgie d'exérèse. On se méfie des rechutes selon la taille de l'adénome malin, selon l'âge et selon, je dirais, la précocité de la découverte.
Très vite, docteur, est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre justement les pesticides et la thyroïde cancéreuse?
Énorme. Je vais aller plus loin. Il y a un rapport avec les rayonnements ionisants. Vous savez, quand on fait la guerre, qu'on lance des bombes atomiques, ben, je ne vais pas rappeler le Japon et la Russie. Vous savez que chez certaines personnes, ces rayonnements provoquent une mutation génétique. Vous savez que dans certaines régions, il y a un déficit en iode. Il faut habiter près de la mer ou manger du poisson, du jaune d'œuf, boire du lait, manger de l'ail et des crucifères. Ne pas oublier, le zinc et le sélénium qui régularisent tout cela.
Merci, docteur.
Ils ne sont pas bien et n'oublions